Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, l'émission pourrait plutôt s'appeler « Racontez-nous l'agriculture française ». Mon invité vient de publier un livre à point nommé quelques jours avant la crise agricole qui a bloqué des routes et quelque peu bousculé l'inauguration du Salon de l'agriculture. Son titre exprime une incertitude, presque une inquiétude, qui va nous nourrir. Son sous-titre est encourageant, au cœur de l'urgence écologique, le renouveau paysan. Amélie Poinceau, merci d'avoir accepté de venir au micro de Divergence FM. Vous êtes journaliste à Mediapart depuis 2014. Antérieurement, vous avez été correspondante en Grèce et en Pologne pour différents médias francophones, RFI, La Croix, AFP TV, Le Soir. À Mediapart, vous avez d'abord suivi l'actualité européenne, la poursuite de la crise grecque, la guerre en Ukraine, la crise de l'accueil des exilés d'Irak et de Syrie, la montée du nationalisme en Europe centrale. Aujourd'hui, vous travaillez au sein du pôle écologie de la rédaction. Vous traitez les sujets sur l'agriculture et la production alimentaire. Alors j'indique aussi, même pour être dans l'actualité, que vous animez une conférence débat sur votre livre demain, 4 avril, à 18h30 à la Carmagnole, 10 rue Haguenau. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est dans le quartier de Figueroles. Avant que nous quittiez dans les campagnes françaises, racontez-nous votre Montpellier. Vous avez quitté la ville en 1998, mais vous y revenez pour des raisons familiales. Donc, vous connaissez cette ville. Quels sont les lieux que vous appréciez particulièrement, pas nécessairement les plus connus, et auxquels vous êtes attaché, que vous conseillez à vos amis, par exemple?
Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que, comme vous l'avez dit, ça fait vraiment longtemps que j'ai quitté Montpellier. Et Montpellier est quand même une ville qui a énormément changé. Oui. Je pense notamment avec le développement du tramway. Moi, j'ai connu Montpellier sans le tramway. J'ai grandi dans cette ville, effectivement, qui avait une allure très différente d'aujourd'hui. Et j'ai grandi dans le quartier de la Chamberthe, qui est un quartier où, malheureusement, je ne retourne pas beaucoup, mais que j'ai beaucoup apprécié.
Oui, c'est un quartier de petites maisons, on peut dire ça, principalement.
Oui, il y a aussi... Enfin, voilà. Nous, on était en résidence en appartement, mais il y a à proximité d'un grand parc qu'on appelait le Petit Bois. Je ne sais pas s'il porte encore ce nom-là, mais c'était vraiment une bouffée d'oxygène quand on était enfant et un espace de liberté énorme. Et en parlant de parc, moi, il y a un autre lieu pour lequel j'ai une affection particulière parce que c'est un lieu qui a été longtemps menacé et qui aujourd'hui pourrait ne pas exister s'il n'y avait pas eu une mobilisation des habitantes et des habitants pour le préserver. C'est le parc Clémenceau.
Oui.
Et avenue Clémenceau. Et en fait, il se trouvait que j'étais au lycée Clémenceau. Et à l'époque...
Presque face au lycée. Hein, pour...
Voilà. Et à l'époque où j'étais au lycée, en fait, ce parc était une friche. C'était
oui,
l'emplacement d'un ancien commissariat.
Tout à fait.
Et l'endroit devait être bétonisé. Enfin, en tout cas, le parc n'était pas du tout préservé. C'est une lutte qui a duré des années. Et aujourd'hui, c'est un parc vraiment très, très appréciable et où on retrouve des essences d'arbres vraiment... Il y en a assez diverses. Enfin, c'est vraiment un bel endroit. Et un endroit bienvenu dans le centre-ville de Montpellier qui quand même est très dépourvu d'espace vert. Alors on a un très bel écusson et un espace piétonnier immense que beaucoup de villes nous envient. Et c'est vrai que c'est très agréable de se promener dans les rues de Montpellier. C'est aussi ce que je fais systématiquement quand je reviens. Mais ça manque d'espace vert et donc cet endroit-là est précieux.
En plus, il va être desservi par le tram. Du coup, ça va être un lieu de repos pour aller se balader, loger des enfants, bouquiner ou je ne sais quoi. Mmh. Alors vous avez un peu voyagé en France. Si vous aviez à définir en quelques mots comme ça le style de Montpellier, je dirais, par rapport aux autres métropoles, qu'est-ce qui, selon vous, peut-être dans la manière dont on vit à Montpellier, se distingue, se caractérise cette ville ?
Je trouve que c'est compliqué de faire des généralités comme ça, mais en tout cas, ce qui est agréable, et là, j'ai pu en profiter aujourd'hui, c'est de pouvoir déjeuner en terrasse lorsqu'on a le temps, en tout cas de profiter du climat méditerranéen. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, justement, en voyageant et notamment en vivant en Grèce pendant quelques années, c'est que énormément d'étudiants grecs, en fait, étaient passés par Montpellier. C'est une ville qui attire énormément d'étudiantes et d'étudiants au-delà, je veux dire, de la population française. Il y a beaucoup d'étudiants Erasmus qui viennent à Montpellier et elles laissent toujours des souvenirs assez extraordinaires, cette ville.
Donc on va laisser des points de suspension après cette évocation qui parlera à quelques-uns de nos auditrices et aux auditeurs. Donc voyons maintenant le sujet que nous allons traiter. Ce n'est pas un livre, si j'ose dire, hors sol. Ça m'a beaucoup intéressé. Il conjugue le recours aux études, aux rapports, et avec le reportage, avec les témoignages d'actrices et d'acteurs d'une agriculture en mouvement, Kevin, Ludivine, Yvan, Fanny, Romain et bien d'autres que nous rencontrons grâce à vous. Alors d'abord, pour que nous nous mettions dans le bain, pour quelles raisons vous couvrez, comme on dit dans les médias, l'agriculture ? C'est le résultat d'un choix, d'une répartition du travail à la rédaction, ou ça relève quand même de votre propre volonté ou de votre propre intérêt ?
Oui, bien sûr, c'est moi qui ai proposé en fait de travailler sur ces questions-là à Mediapart. Et ça a été le résultat d'un ensemble de réflexions et un concours de circonstances aussi, parce qu'il était prévu à Mediapart de développer, de monter en puissance, si je puis dire, sur les questions écologiques. Donc il y avait un petit peu une volonté en interne, en tout cas, d'étoffer à ce moment-là cette partie-là de la rédac qui était minuscule. Et moi, j'ai fait une proposition, c'était en fait après les Gilets jaunes, après le mouvement des Gilets jaunes. Donc il y a eu aussi ce sentiment de décalage et d'incompréhension des rédactions parisiennes par rapport à un mouvement qui prenait dans des endroits qui étaient très, très éloignés de nos réalités de citadines et de citadins de la capitale.
Un mouvement social atypique. Oui.
Voilà. Donc comment mieux attraper les espaces ruraux, périurbains, hors des grands axes, etc. Et puis après, moi, de par aussi mon histoire familiale, et mon entourage, j'avais une appétence pour ce secteur-là, qui, de toute façon, alors je parle de ça, c'était il y a 4-5 ans, c'est pas comme aujourd'hui où l'agriculture fait la une des médias bizarrement depuis quelques semaines, mais quand moi j'ai proposé ce poste à Mediapart, en fait, l'agriculture était le parent
ignoré.
Oublié. Dans la presse, en tout cas généraliste parisienne, il y avait quasiment pas de, ou très très peu de journalistes spécialistes de ces questions. En tout cas, à Mediapart, on ne les suivait pas.
Ah ben voilà. Cette manque a été compensée depuis 5 ans, donc.
Voilà.
Alors donc, on va parler de votre livre, qui est la résultante, bien sûr, du travail effectué entre-temps, mais quel est un peu l'idée maîtresse qui vous a conduit à la rédaction de ce livre et en complétant, bien sûr, la connaissance de ces sujets que vous aviez explorés pendant plusieurs années. Quel a été le facteur déclencheur, oui.
Le facteur déclencheur, ça a été en fait la publication des résultats du dernier recensement agricole. Donc tous les 10 ans, en fait, il y a un recensement qui est mené par les services du ministère de l'Agriculture, qui est fait depuis les années 50-60. Lors de la publication des données du recensement de 2020, je me trouvais donc au ministère de l'Agriculture. À ce moment-là, c'était Julien Denormandie qui était ministre et qui présentait donc les résultats de cette grande étude. Et là, ça a été, j'avoue, un espèce d'électrochoc, parce que j'ai réalisé que ce qu'on connaît déjà depuis un siècle, le fait que le monde agricole se vide et que la tendance générale, c'est l'agrandissement des fermes et le départ des agriculteurs et des agricultrices, eh bien, en fait, cette tendance-là ne fait que se confirmer encore maintenant et continue, se poursuit. Ça ne s'est pas du tout arrêté aux années 60-70, qui ont été quand même
donc,
la période du grand exode.
C'est un mouvement continu. Et donc, il y a
des effets. Semble ne jamais s'arrêter.
Du coup,
parce qu'il
y a un effet de cumul en plus de ces phénomènes.
Bon. Oui. Et en 2020, en tout cas, les données de 2020, c'est moins de 400 000 fermes en France. Donc déjà, c'est ridicule par rapport, pour donner un ordre de grandeur, un siècle plus tôt, on était à 4 millions de fermes.
10 fois plus.
Et c'était le secteur économique numéro 1, le secteur primaire. Et ne serait-ce que sur la dernière décennie, donc entre 2010 et 2020, il y a moins 100 000 fermes. 100 000 fermes qui disparaissent en 10 ans. Et on voit bien que la courbe, elle n'est pas stabilisée. Donc ça m'a vraiment interpellée. Et puis, au-delà de ça, de ce moment un peu de prise de conscience, en travaillant au quotidien sur ces questions-là à Mediapart, j'ai pris conscience de tout un tas d'autres choses. Et puis c'est passionnant, en fait, de travailler sur l'agriculture. Donc, j'ai eu envie d'aller au-delà des articles du quotidien qui ont une durée de vie quand même éphémère. Et écrire un livre, ça permet aussi d'aller encore plus en profondeur. Et de développer, en fait, une pensée.
Et donc, de mettre le doigt sur un certain nombre de phénomènes, notamment un que j'ai découvert, qu'on va expliquer aux auditeurs, les NIMA, N-I-M-A, les non-issus du milieu agricole, qui est une formulation souvent utilisées, presque officielles, et qui racontent ces personnes qui changent de voie, qui bifurquent, comme on dit, pour aller vers l'agriculture. Ça a été un des éléments importants là, du diagnostic que vous proposez aux lecteurs du livre, là, ce phénomène.
Tout à fait, tout à fait. Ce sigle, effectivement, NIMA, est rentré dans la langue, dans le langage courant, en tout cas, des gens qui s'intéressent à l'agriculture. Et c'est un vrai phénomène sociologique. Et c'est ça qui est intéressant et que je développe dans le livre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu faire une relecture, en fait, d'un ouvrage majeur de la sociologie rurale et de l'histoire de l'agriculture, qui a été le livre « La faim des paysans », écrit par Henri Mandras à la fin des années 60. Dans ce livre, en fait, il décrit voilà, un monde paysan qui disparaît et où, en fait, jusqu'à l'époque de Mandras, on était paysan parce qu'on était fils de paysan. C'est comme ça qu'il l'écrit,
voilà,
au masculin.
Par filiation, par transmission.
Voilà, par transmission, on ne se posait pas de questions, en fait. Mmh. Et puis, bon, il raconte ça au masculin, parce qu'à l'époque, on racontait toute cette histoire-là au masculin, mais ça aussi, j'apporte aussi des nuances dans le livre par rapport à ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que, de fait, les fils de paysans ou les fils d'agriculteurs et filles veulent pas forcément reprendre la ferme parentale, de moins en moins, en tout cas. Mais par contre, de plus en plus, d'autres arrivent qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Alors, parfois, ils ont le souvenir d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent ou d'un grand-oncle.
On a tous des aïeux paysans.
Donc, quelquefois, il y a quand même des souvenirs d'enfance, quelque chose qui évoque... à un moment donné, on a fréquenté ce monde-là et tout d'un coup, ça se réveille à l'âge adulte. Mais il y a des gens qui n'ont vraiment aucun lien dans leur biographie.
Alors, c'est passionnant. Alors, vous y avez fait allusion... on a traité cet aspect des choses. Beaucoup de femmes dans ce phénomène, et dans des proportions là aussi inhabituelles et qui rompent avec, je dirais, le système habituel de prise de responsabilité à la tête des fermes.
Alors, beaucoup de femmes, je dirais que c'est même complètement mixte, en fait, hein, ce mouvement-là. Aujourd'hui, en fait, la proportion, c'est à peu près 25%. 25 à 30% des personnes qui sont à la tête d'une exploitation agricole sont des femmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on leur a mis énormément de bâtons dans les roues et qu'elles ont, jusqu'à une date très très récente, elles ont pu arriver à une parité, ce qu'on appelle la parité de statut, vraiment exactement les mêmes droits que les hommes à la tête d'une exploitation agricole. C'est vraiment très récent.
Donc c'est plus tardif que dans l'artisanat.
Oui. Y compris pour décrocher les aides publiques, etc. Et pour donner aussi un tout petit exemple de ça, et du statut des femmes en agriculture qui est quand même très, très difficile, c'est seulement depuis 2019 que les congés maternité pour les agricultrices sont de même durée que les congés maternité dans le reste du monde du travail. C'est quand même assez incroyable quand on y pense. Mais ce que je raconte effectivement dans le livre, c'est que autant les femmes ont été les premières à partir dans les années 50-60, ont poussé, y compris dans les familles, hein, c'était dans les familles où il y avait beaucoup d'enfants, en fait, les femmes, on les poussait plutôt à faire des études, à devenir institutrices,
aller à la ville.
Et c'est l'histoire notamment de Marie-Hélène Lafont, cette romancière que je cite dans mon livre et qui décrit justement très très bien ce monde paysan dans le Cantal où elle se trouvait. Et aujourd'hui, effectivement, on observe dans ces bifurqueurs et ces bifurqueuses énormément de femmes. Et c'est plus du tout un sujet, en fait, hein, de s'empêcher, entre guillemets, les métiers agricoles parce que métiers physiques, etc. Au contraire, il y a des femmes qui s'entraident aussi et qui se forment entre elles pour justement acquérir toute l'autonomie qu'elles veulent avoir.
Alors, à grands traits, bien entendu, c'est NIMA. Qui sont-ils ? De quels horizons professionnels, personnels ou géographiques viennent-ils ? Parce qu'on en rencontre beaucoup, je l'ai dit, en lisant le livre. Racontez-nous ces gens-là que vous avez côtoyés pendant des semaines et des semaines un peu partout en France.
Alors, c'est des profils effectivement très variés. Il y a un profil avec lequel je démarre dans mon livre, qui est le profil un petit peu militant écolo, militant climat, activiste, voire activiste entre guillemets radical, très très présent dans des luttes, notamment les luttes menées par les soulèvements de la terre, Extinction Rébellion, etc. Donc ça, c'est des personnes qui arrivent un peu comme à l'époque. Alors je fais aussi pas mal de parallèles avec le Larzac, puisqu'on est à Montpellier.
Et
sur le Larzac, c'est ce qui s'est passé pendant la lutte contre l'extension du camp militaire. C'est des gens qui, au départ, n'avaient pas de lien spécialement avec la paysannerie et qui arrivent pour la lutte et pour défendre des terres et qui, du coup, après, on arrive à découvrir le métier de l'élevage et à s'installer, etc. Donc il y a ce profil-là aujourd'hui, une recherche de sens, de cohérence, quand on voit l'état dans lequel est la planète, qu'est-ce qu'on peut faire qui ait du sens et qui ait un effet, qui soit concret, plutôt que des grands discours, comme je suis en train de faire. c'est mettre les mains dans la terre. Et donc voilà, il y a des personnes qui arrivent voilà, simplement en raisonnant de cette manière-là. Et puis, et je pense que c'est une vraie tendance. Et puis sinon, il y a des personnes qui vont de manière plus générale se sentir étouffées dans le monde du travail actuel et qui sont dans une recherche d'autonomie. Là aussi, de sens, mais pas forcément c'est pas forcément des gens pour le coup militants ou qui sont dans la lutte, mais qui voilà, après un burn-out ou en tout cas une impasse professionnelle, après 10, 15 ou 20 ans de métier, donc là ça va être des parcours plutôt voilà, de bifurcation après une première vie professionnelle, là vont se tourner vers l'agriculture. Et puis il y a des gens aussi qui vont profiter voilà, d'avoir travaillé pendant un certain nombre d'années dans un boulot qui peut être très rémunérateur et du coup vont avoir les capacités financières aussi, parce qu'on en reparlera, mais c'est voilà, compliqué de s'installer en agriculture quand on n'a pas les moyens. Et donc il y a des gens qui vont profiter d'avoir un petit capital et d'avoir justement travaillé dans un secteur très rémunérateur pour voilà, s'installer, acheter des terres ou trouver une ferme.
Voilà. Alors, et puis aussi, je le dis au passage, ouais, parce que ça y est deux ou trois fois, l'amour des vaches aussi. Là.
Oui, bien sûr.
Ça, qui est, ça aussi, bon, on voit bien le rapport aux animaux. Qui est un des facteurs d'attachement.
C'est le cas, c'est vrai que je pense notamment, c'est des chapitres qui arrivent peut-être vers la fin de l'ouvrage. Morgane en Loire-Atlantique ou Florian en Normandie, dans l'Orne, sont des gens que je suis allée voir. Alors eux, pour le coup, ils ont une formation, en tout cas dans le cas de Morgane, une formation d'ingénieur agronome. Donc pour le coup, déjà au moment des études, il y avait, voilà, elle s'était orientée vers ce secteur-là.
Mais pas en marchant dans les pas de leur
voilà,
prédécesseur.
Après, on l'a vu aussi avec l'appel à bifurquer il y a deux ans, qui est parti d'AgroParisTech, donc la grande école d'ingénieurs agronomes. Mais ce genre d'interpellation qui a été faite donc, par les étudiants au moment de la remise des diplômes sur les contenus des enseignements qu'ils ont reçus à l'école, ça s'est diffusé dans plein d'écoles et dans plein de cursus, pas seulement les écoles d'ingénieurs agronomes, mais dans d'autres grandes écoles. Et ça, cette jeunesse-là qui ne comprend pas, qui ne comprend plus les programmes d'enseignement qu'elle reçoit quand elle voit ce qui se passe par ailleurs sur la planète, bon, ben, ça, pareil, c'est un mouvement vraiment qui s'étend énormément. Et il y en a certains qu'on retrouve aussi dans le livre.
Alors, le temps file. Décrivez-nous à grands traits, bien entendu, en quoi se distingue la manière de gérer, d'exploiter une ferme avec ces personnes-là par rapport au système dominant, productiviste, dans les choix des productions et dans les choix de gestion de l'exploitation, qu'est-ce qui les distingue?
Ben moi, tous les gens que j'ai rencontrés, alors je ne l'ai pas vraiment fait exprès, mais c'est comme ça aussi que c'est les gens sur lesquels je suis tombée en cherchant en fait des personnes qui sont dans le parcours d'installation en agriculture et qui sont, comme on l'a dit, voilà, issus de parcours un peu de virage, de bifurcation, etc. Eh bien, tous ces gens-là que j'ai rencontrés, en fin de compte, aucun n'est dans des circuits longs de grande distribution, etc. Tous sont dans une relative autonomie, ou en tout cas sur la voie de retrouver une autonomie, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent eux-mêmes le circuit de production, de vente. Ils vont être le plus généralement dans de la vente directe, et donc avec une maîtrise des prix. Si c'est pas eux qui vendent directement, ils s'associent avec d'autres agriculteurs et agricultrices localement, du coin, localement, où ils vont tenir des permanences dans un magasin de paysans, par exemple, ou alors ils vont faire des paniers type AMAP avec effectivement d'autres producteurs et productrices autour d'eux. Ils sont pas du tout insérés dans des systèmes où en fait ils n'ont plus de marge de manœuvre. Et puis beaucoup aussi font de la transformation sur place.
Ah oui, parce qu'il y a une diversification des produits et une diversification des activités. On
tout
peut le fait. Résumer comme ça.
Tout à fait. Et de plus en plus, alors là, c'est peut-être pas extrêmement présent dans le livre, mais parce qu'aussi, ils sont dans la recherche, mais notamment Florian. En fait, lui, il veut absolument s'installer en collectif, mais il n'a pas encore trouvé les partenaires du collectif. Mais ça, c'est aussi une tendance que de se regrouper, d'être à minima en couple ou à
de
plusieurs personnes. Voilà.
Parce qu'il y en a d'autres par le passé. Bon, en préparant l'émission, bon, on a évoqué la question de la grande histoire de la coopération en milieu agricole, dont on peut discuter les effets actuels, mais c'est un peu la même cette idée de ne pas rester dans un isolement que, bien sûr, la situation même des fermes, perdues plus ou moins dans la campagne, peut favoriser.
Tout à fait. Et puis, en fait, s'ils veulent avoir de la valeur ajoutée sur leurs produits, en fait, il faut faire de la transformation. Et ça, on ne peut pas faire tout ça tout seul. C'est-à-dire, à la fois produire, transformer, vendre. Vendre, c'est un sacré boulot, la logistique, aller sur les marchés, etc. Donc, effectivement, la solution que certains ont trouvée, c'est être à plusieurs ou alors, voilà, se regrouper dans des petites coopératives. C'est effectivement l'une des clés pour s'en sortir économiquement. Et d'ailleurs, les gens que j'ai rencontrés s'en sortent bien économiquement. Ce n'est pas du tout la vision qu'on en a dans
Exactement,
les médias depuis
dire
le début de l'année.
L'exploitation, la voilà. petite ferme, c'est fini. Le livre démontre le contraire.
Voilà.
Alors, dans ce parcours, parfois long, compliqué, ces personnes rencontrent un certain nombre de freins, d'obstacles. Le livre le raconte bien, c'est très frappant. Alors, quels sont-ils ces principaux freins, obstacles sur le chemin vers une installation, je dirais... bien organisé et réussi.
Le frein numéro un, c'est accéder aux terres. Et les terres sont chères. C'est pas en Occitanie qu'elles sont le plus chères. C'est plus on monte vers le nord de la France, plus elles sont chères, de manière schématique. Mais en tout cas, dans le nord, plus on se rapproche de la Belgique, c'est extrêmement cher, jusqu'à 20 000 euros l'hectare. Et en fait, ce qui fait qu'en fait, c'est impossible en fait de les acheter. On reste locataire ou bref, il y a d'autres systèmes. Mais en tout cas, l'obstacle du foncier est énorme lorsqu'on n'a pas de capital, lorsqu'on n'a pas soi-même. On n'est pas soi-même, encore une fois, issu du milieu. Et puis après, passer l'obstacle du foncier, si on arrive à décrocher les prêts de la banque, il y a aussi en fait tous les organismes agricoles et para-agricoles qui vont décider d'attribuer en fait les terres, les aides publiques, etc. En fait, il y a l'organisme de la SAFER notamment qui régule l'attribution des terres agricoles. Donc si son projet en fait ne convainc pas les élus de la SAFER, que les élus de la SAFER préfère un autre projet concurrent et qui justement produirait mieux, serait productiviste, etc. Bon, bah, dans ce cas-là, celui qui a un projet alternatif plus écolo va pas forcément remporter la partie.
Ce qui m'a frappé, c'est que vous décrivez par le menu un système très complexe, il y a beaucoup d'organisations de tous ordres, syndicales, techniques, consulaires. C'est un conservatisme très fort. Qui rend, me semble-t-il, avait l'image de plusieurs décennies d'une agriculture innovante et novatrice. En gros, on a transformé l'agriculture et le pays avec. Et aujourd'hui, il y a une espèce d'enquistement qui fait obstacle donc aux personnes que nous présentons, là, qui sont dans une autre approche.
Tout à fait. Tous ces organismes-là, la plupart en tout cas, sont issus des grandes réformes des années 60 menées par Edgar Pisani, qui était alors ministre de l'Agriculture et qui effectivement a énormément modernisé le secteur et il en avait besoin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on reste dans ce logiciel-là qui a poussé en fait à l'agrandissement des fermes, au regroupement des parcelles, à l'arrachage des haies, etc. Et donc à l'exode dont on a parlé. Et aujourd'hui, effectivement, il faut penser dans un autre logiciel. Et le problème, c'est que les organismes, eux, n'ont pas bougé et les manières de fonctionner non plus. Donc effectivement, il y a un certain conservatisme. Et surtout, et c'est là où c'est très inquiétant, c'est qu'il y a un repli sur soi et une frilosité de la part du syndicat dominant qui
FNSEA,
s'agrippe.
Oui.
La FNSEA, effectivement, pour ne pas le nommer, et avec les JA, qui est le syndicat frère des jeunes agriculteurs, qu'on a beaucoup vu sur les mobilisations. Et qui en fait semble s'agripper en fait à une sorte de privilège ou de corporatisme, parce que effectivement, depuis la fin de l'après Seconde Guerre mondiale, ils sont au poste clé, au poste décisif de tout ce monde-là, et ils ont du mal à supporter, à accepter l'arrivée de nouvelles personnes et d'un nouveau souffle, alors que ça ferait du bien à tout le monde.
Ouais, alors ceci dans une logique de partage des responsabilités entre les gouvernements et ces grandes organisations majoritaires, il faut bien le dire aussi. Mmh, parce que voilà, y a une vision de l'agriculture qui est cohérente. Alors, on a parlé de l'installation, mais aussi de la transmission. Elle ne se faisait pas comme elle se faisait dans le siècle précédent. Là aussi, ce n'est pas très simple non plus pour c'est les garçons et les filles qui veulent succéder à leur père, leur grand-père ou leur oncle, hein, reprenant de leurs mains la responsabilité de la ferme.
Oui, dans le cadre familial.
Ouais.
Oui, oui. Alors, c'est vrai que j'ai aussi abordé ce sujet-là, parce que malgré tout, malgré ce qu'on dit sur le changement sociologique et démographique à l'œuvre dans le monde agricole, la transmission familiale perdure. Il y a encore énormément de fermes qui se transmettent d'une génération à l'autre et qui restent dans un cadre familial. Ça reste malgré tout le modèle encore dominant. Et ça ne se passe pas toujours très bien. C'est compliqué aussi parce que le moment de la transmission est souvent le moment où on peut justement changer le modèle.
Repenser
le modèle de la ferme. Et précisément passer par exemple à du bio ou arrêter certains produits ou justement diversifier les productions, ne plus rester sur de la entre guillemets monoculture mais remettre un peu d'animaux, varier davantage les parcelles, etc. Et en général, c'est au moment de l'installation du fils ou de la fille que on va changer les choses et c'est pas forcément bien accepté effectivement de la part des cédants.
Compliqué quoi. Hein.
Ouais, et je raconte dans le livre des histoires qui se sont mal passées effectivement.
Alors un petit mot sur l'actualité, mais on peut pas l'évoquer. Donc élection européenne prochaine, on sait que la politique agricole commune portée de tout temps presque par l'Union européenne est déterminante dans l'organisation de l'agriculture, dans le financement des exploitations. À vos yeux, quels sont les enjeux européens qui pourront peut-être être un des objets, je dirais, des débats qui démarrent là sur les futures élections européennes?
Ah ben, l'agriculture est un enjeu européen majeur. C'est pour moi l'enjeu numéro un. Je ne prêche pas seulement pour ma paroisse. C'est que c'est le premier budget public européen. Pour la France, c'est 9 milliards d'euros donc d'argent public chaque année qui viennent financer l'agriculture. Donc, moi, je trouve que ce qui est intéressant, là, c'est de regarder les programmes ou ce qu'on va avoir comme programme d'ici le 9 juin et voir ce que propose chaque liste sur la politique agricole de demain. Parce que c'est au niveau européen, entre autres, hein, après, dans le livre qui va nous nourrir, je raconte aussi comment les régions, notamment, et les collectivités locales peuvent avoir la main sur certaines choses et peuvent initier des choses.
Oui, il y a certaines politiques publiques dont on peut dire qu'à grands traits, elles vont dans le bon sens.
Oui, mais l'argent, il vient de ce qui est décidé et voté au Parlement européen aussi. Donc l'enjeu, pour moi, il est énorme. Il sera énorme à ce niveau-là le 9 juin. Et c'est la manière dont la PAC, la politique agricole commune, a été dessinée depuis de nombreuses années maintenant, fait qu'on reste dans ce schéma productiviste où plus on est gros, plus on a d'hectares, plus on va toucher de l'argent public.
Alors, question corollaire, il y a une loi dite d'orientation agricole, un projet de loi porté par le gouvernement qui était en gestation. La gestation a été un peu suspendue en raison de ce qui s'est passé, comme on le sait, il y a quelques semaines. Ce projet de loi a été présenté officiellement. Est-ce qu'il, au moins partiellement, est-ce qu'il rompt, je dirais, avec les modèles antérieurs, avec le productivisme et avec une vision de l'agriculture qui domine depuis plusieurs décennies? Est-ce qu'il y a un certain changement de cap?
Non, pas du tout, malheureusement. Alors, il a été présenté ce mercredi matin en Conseil des ministres et il a même dévié fortement de son objet initial qui était précisément d'aider au renouvellement des générations puisque... encore une fois, voilà, et c'est un peu l'objet de mon livre, c'est le problème que la moitié des agriculteurs et agricultrices en activité, là, part à la retraite dans les 6 ans qui viennent. Donc, il y a un enjeu majeur à renouveler tous ces gens. Et c'était l'objet de la loi. Et là, en fait, ce qui s'est passé avec le mouvement de colère agricole, c'est que le gouvernement a surtout voulu répondre aux demandes des syndicats dominants. Et donc, ce qu'il apporte, en fait, en vrai, c'est un ensemble de simplifications administratives énormes. Wow. Pour permettre des projets agro-industriels, en fin de compte, qui ne vont pas du tout répondre aux enjeux écologiques.
Méga ferme et autres. Alors, on arrive même au bout, Aurélie, de notre entretien. Les auditeurs ont compris qu'on pouvait prolonger le sujet. Alors, ceux que ce sujet a intéressé, je le rappelle, peuvent aller ce jeudi soir à 18h30 à la Carmagnole, où vous échangerez avec les participants sur votre livre.
Et je dédicacerai le livre aussi.
Et donc, merci. Donc, on voit bien qu'il y avait beaucoup de choses. Par exemple, je le dis pour finir, une des choses frappantes, c'est la réhabilitation du mot paysan. Donc, en gros, c'est le règne des agriculteurs, 4 ou 5 décennies. Et puis, comme d'ailleurs une des organisations, mais de récréation plus récente, la Confédération paysanne le dit, la réhabilitation, le retour des paysans. Donc, vive le retour des paysans. Merci, Amélie Poinceau.
Merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.